Premier sujet ce matin, les indices boursiers qui sont à des niveaux records.
Record, Paul. Ceux qui ont mis de l'argent dans leur CD l'année passée, pour vrai, là, payent leur cadeau de Noël cette année juste avec le rendement boursier. C'est complètement fou. On prévoit même que cette année, ce qui va soutenir le marché, c'est comme un peu dans les dernières années, c'est le rachat d'actions. Donc, on dit qu'une étude publiée par la Banque française Société Générale montre que les sociétés du S&P 500 ont racheté l'équivalent de 22% des actions des capitalisations boursières depuis 2010. Ce que ça veut dire, c'est que les entreprises rachètent des actions sur le marché parce qu'on juge que c'est un bon rendement à faire pour les actionnaires, et les actionnaires qui restent, eux, voient leurs bénéfices moins dilués parmi un grand nombre d'actionnaires. Et quand on regarde les indices boursiers, écoute, le TSX aujourd'hui commence à 17 000 points. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie, là. Écoute, depuis 52 semaines, le TSX a varié de moins 14 000, pas moins 14 000, mais de moins de 14 000 points à 17 000. C'est énorme, là. Et même chose aux États-Unis, là. Le S&P 500, si vous avez investi au début de l'année, vous avez fait 24-25% avec l'indice, là, pas en spéculant sur un titre. C'est complètement fou, parce que la chute de l'automne dernier a fait faire de l'argent à beaucoup de gens. Mais là, attends une minute, TSX en haut 17 000 points. S&P 500 rendu à 3120 points. Le Nasdaq, 28-29% de l'an passé. Quand même, là, en un an, 8500 points. Donc, on a défoncé tous les plafonds dont je te parlais. Tous ceux qui étaient la limite psychologique des investisseurs. Et là, il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai fait de l'argent en bourse, mais j'ai fait bien plus avec l'immobilier. C'est parce qu'on a deux comportements différents. Avec l'immobilier, on va s'endetter pour investir. Donc, par exemple, si vous avez acheté un immeuble à 350 000, vous êtes endetté à 80% et plus, bien, c'est sûr que vous avez fait plus de rendement en dollars au total. Vous avez mis votre avenir financier en jeu sur une plus grande quantité de dollars. Et vous vous dites, c'est pas grave, l'immobilier a une valeur minimale. Tandis qu'en bourse, c'est rare les gens qui vont emprunter 200-300 000 piastres pour multiplier ça par 2 puis par 3. Mais tu sais, le Nasdaq, après la crise financière, était au plancher. Et puis là, on est à 8500 points, on a multiplié par plusieurs fois la mise.
Mais là, ce que tu me dis dans le fond, là, puis ramenons ça au Québec, là, c'est que de façon générale, la bourse performe. De façon générale, le marché immobilier est à la hausse, donc ça me coûte plus cher, j'emprunte plus. Mm-hmm. Ça veut dire que l'économie va bien?
Ben, ça veut dire que sur 10 ans, 10-11 ans, tout le monde qui a investi en immobilier ou en bourse a fait de l'argent. Mais ça veut pas dire que ça va bien pour tout le monde. Parce
non,
que
non, non, ça c'est...
Ce qui est le fun avec l'investissement, c'est ceux qui investissent qui font de l'argent et ceux qui investissent pas en font pas. Donc, veut, veut pas, ça crée un écart de richesse qui se crée par des changements de comportement et la personne qui investit se retrouve à avoir plus de pouvoir d'achat que son voisin et ça se perpétue. Donc, c'est un peu ça qui arrive, mais là, tu me dis, est-ce que j'investis en immobilier ou en bourse dans les prochaines années? Je te dirais que ça va être moins spectaculaire que les dernières années. Ça peut pas. Ça se peut juste pas. T'sais. Pensez pas refaire 20% en bourse chaque année. C'est comme impossible. Hein. Quand on vise une stratégie long terme, on vise une stratégie de 5%, 6%, puis on est content sur 25 ans. Mais quand on a fait des rendements incroyables dans les dernières années, on perd le sens de ce qui est normal. C'est comme quand on se met à augmenter de salaire, on perd des fois la proportion de ce que c'est gagner 30 000, 40 000. C'est le même principe.
L'épargne forcée, c'est pas une bonne idée.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la solution pour les Québécois et les Canadiens, hein, c'est l'épargne forcée. » Mais faut dire que le régime des rentes du Québec et le régime de pension du Canada, c'est un peu de l'épargne forcée. Hein?
Oui, oui.
10,80% de ton revenu va en épargne de la part de toi et de l'employeur jusqu'à un plafond. Et ça peut aussi venir 100% de toi si tu es travailleur autonome. Par contre, où je m'en bémol? Disons que tu as eu deux fois un cancer en bas de 40 ans. Disons que toute ta famille meurt d'une crise cardiaque avant 70 ans ou que tu as une maladie à la naissance comme la fibrose kystique ou autre qui donne une espérance de vie un peu plus courte. Alors la question, est-ce qu'on devrait forcer les gens à faire de l'épargne forcée quand ils savent que biologiquement, ils sont condamnés plus vite que les autres? Alors ça créerait, comment on peut dire ça, une injustice entre les gens en santé et non en santé. Deuxième point important, c'est la fraude fiscale. Si on forçait les gens à épargner sur leur revenu officiel, ça favoriserait tous les fraudeurs à pouvoir investir ailleurs. Donc, en plus de ne pas être honnête, ils profiteraient d'opportunités d'épargne ou d'investissement que les autres n'ont pas. Et j'arrive à mon troisième point, la liberté d'investissement. Tu sais, si moi, je décide à 20 ans de vouloir mettre 100% de mon petit gagne-pain dans du risque ou dans un immeuble à revenus ou en bourse, mais c'est mon choix, je fais un choix volontaire. Plus on est riche, plus c'est facile de diversifier ses investissements parce que plus tu as de l'argent en disponibilité. Donc, si on forçait les gens à épargner 10 % de leur salaire ou 20 ou 30 % de leur salaire, on les forcerait à perdre la liberté d'investissement. Mais là, je vais t'amener évidemment le contre-coup de tout ça. C'est que si personne s'investit ou épargne, tu forces ton voisin à payer. Parce qu'évidemment, Jean-Claude, qui n'a rien fait de sa vie, qui a vécu à 100 000 à l'heure, quand il arrive le temps de la retraite, des CHSLD, des soins de santé, de l'aide aux aînés, des crédits d'impôt, lui veut tout ça. Mais il a moins contribué que d'autres en épargnant moins, il est moins autonome. C'est un peu comme la santé physique. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as pour être le plus en santé possible, pour être le moins gros coût social possible. Ben, financièrement, c'est un peu la même chose. Tu sais, il faut que tu épargnes pas juste pour toi, mais pour les autres, c'est-à-dire d'être le plus autonome possible.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Bonne journée.
C'est inspirant.
Hey, oubliez pas que les cadeaux de Noël sont payés avec du rendement de l'année passée. C'est merveilleux.
Toi, faut-tu mettre le trouble juste avant de partir, là, c'est ça?
Je mets pas le trouble, Paul. J'amène un angle mort. C'est comme quand voiture, puis il y a un angle mort, tu le regardes pas. Il y a quand même une auto dans l'angle mort, une voiture, donc c'est bon de l'avoir.
Il y a une dépêche, juste finir là-dessus, qui est sortie tantôt. Trois salariés de l'entreprise Pernod Ricard ont décidé de dénoncer la pression permanente de la direction qui les force à boire au travail.
Pas facile. Ça
on
doit être
buvait plus de 40 verres par jour, confie l'un d'entre eux. Et qu'on n'avait pas le choix, précise-t-il.
Hey, je trouve ça vraiment difficile comme condition salariale.
Mais écoute, c'est vrai, 40 jours, c'est quand même pas mal.
C'est beaucoup.
Salut, 7h21.